Voilà, bonjour à tous. Moi, je vais laisser la place à Lydie qui va nous parler brièvement de Turning, de ce qu'elle a vécu.
Bonjour à tous. Alors, pour la quatrième fois, donc, il y a The Turning qui se réunit à l'église vendredi, à l'église de Denain. C'est le pasteur Grégoire qui est là-bas. Hein. Et donc, on a une réunion vendredi soir de louanges et d'intercession, et surtout d'encouragement. Hein. L'idée, c'est de se faire du bien avec le Seigneur en sa présence. Et le samedi, de 10h à 3h de l'après-midi, on est sur Valenciennes. Donc, il y a une journée d'évangélisation, et vous êtes donc tous invités à participer. Enfin, moi, j'y vais, Daniel aussi. Et je voulais vous témoigner de ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis allée à Roubaix le mois passé. Et comme c'est un pays un peu musulman, hein, il y a beaucoup de je me suis dit, oh, je vais relire Mahomet et Jésus de Gabriel, hein, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut dire, tout ça. Puis le soir de la réunion, vendredi, vraiment le Seigneur, il m'a parlé, on parlait justement de Moïse. Moïse qui voit, qui fait un détour parce qu'il a vu le buisson ardent. Là. Les petits vont aller faire les coloriages. Moi, je me souviens bien avoir colorié le buisson avec toutes ces flammes. Là. Et puis, Moïse, il est interpellé, puis il fait un détour. Hein. Il change sa voix, il va faire un détour, il va aller voir ce qui se passe. Et là, il y a vraiment Dieu qui lui dit, parce qu'il a fait un détour, il est allé le voir et il lui dit, vous connaissez l'histoire, mais surtout, il a entendu un cri de Dieu. Dieu, il a entendu le cri du peuple hébreu qui souffre en Égypte et il a besoin de quelqu'un pour envoyer là-bas. Et moi, ça m'a énormément touché ça parce qu'en fait, il disait, est-ce que vous ne voulez pas, parce que Dieu, il a un peuple dans toutes les villes et il a besoin de gens qui vont annoncer le message. Et si vous sentez un petit peu un Moïse, un petit Moïse, eh ben, Dieu, il a un petit travail pour vous, c'est samedi. Et si vous souhaitez, et c'est quelque chose vraiment très simple. Alors moi, Moïse, il dit, oh, mais moi, je ne suis pas capable. Vous avez lu, je pose, la première chose qu'il dit, je ne suis pas capable. Alors, il a été aux plus grandes écoles d'Égypte, tout ça, il est super fort et tout, mais il n'est pas capable. Et on a plein d'excuses pour ne pas y aller. Et la réponse de Dieu qui lui dit une chose simple, et ça m'a vraiment interpellée, c'est, je serai avec toi. Et alors moi, j'ai dit, ben, puisque tu es là avec moi, Seigneur, je vais arrêter de tout préparer, puis je te fais confiance et j'y vais. Et en fait, c'était extraordinaire. Le matin, on va une heure dans la rue, et pendant une heure, ben, j'ai parlé avec six personnes, et six personnes, et ils ont fait la prière du salut dans la rue avec moi, et puis ils ont laissé leurs coordonnées, il y en a quatre qui ont laissé leurs coordonnées. Et l'après-midi, j'ai encore contacté quatre personnes. Alors en tout, ça fait 8 personnes qui ont laissé leurs coordonnées pour continuer. Et donc moi, j'étais waouh. J'ai dit, Seigneur, mais quand on te laisse tout diriger, c'est merveilleux. Pour moi, c'est extraordinaire ça. Alors je vous encourage vraiment. Si vous souhaitez nous accompagner, ben il y a de la place dans les voitures. Voilà. Merci.
Merci Lydie. Alors ce matin, la méditation se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. C'est un texte que m'a inspiré le Saint-Esprit ce matin. J'étais fatigué. Il a eu pitié de moi.
Il m'a dit,
voilà, c'est ton message, c'est le message pour ce matin. Donc, la pêche miraculeuse dans Luc 5. Texte qu'on connaît, normalement, si on lit sa Bible. Tout le monde a les yeux baissés. Luc 5. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il s'appelle aussi le lac de Galilée. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité et Saint-Esprit, toi qui es là, entre nous et en nous, viens nous ouvrir l'intelligence. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation, et qu'au travers de ces mots, eh bien, nous puissions mieux te comprendre, mieux t'aimer, pour mieux te servir. Amen. Alors, c'est un texte qu'on connaît tous. Jésus est tout entier dans sa mission, donné à sa mission, celle de prêcher la bonne nouvelle. Il dit un peu plus haut, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et le voilà qui passe près du lac de Galilée, ou de Génézareth, et il voit deux barques. Il monte dans l'une, dans celle de Pierre, et il s'éloigne, et là, il prêche à la foule. Et puis ensuite, il demande à Pierre, « Avance en eau profonde. » Et là, il réalise un miracle, le miracle de cette pêche miraculeuse. Ils sont tous étonnés, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais voilà, un miracle se produit. Et c'est tellement extraordinaire qu'ils ne peuvent pas, à eux seuls, ramasser tous les poissons. Ils appellent l'autre barque à la rescousse. Et à la fin de l'histoire, Jésus recrute, en quelque sorte, trois futurs disciples et continue son chemin. Alors ici, j'aimerais souligner trois choses. D'abord, la méthode de Jésus. Ensuite, comment Jésus opère une démonstration de puissance par ce miracle. Et enfin, comment il procède au recrutement de trois de ses disciples. Alors la méthode, quelle est la méthode de Jésus? Bien la méthode, les amis, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Sa méthode, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. J'aurais pu lire le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est le début du ministère de Jésus. Et on voit Jésus, chapitre 4, verset 1, rempli du Saint-Esprit, qui revient du Jourdain après son baptême, et conduit dans le désert par l'Esprit. Après ses 40 jours de jeûne, où il a été tenté par le diable, au verset 14, on nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne en Galilée. » Et puis, il va à Nazareth, sa ville natale, et là, il rentre dans la synagogue, et on lui tend le parchemin avec le texte du jour. Et ce texte du jour, c'est Ésaïe 61, qui dit, et Jésus le lit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et après, il déroule tout le programme qu'il va faire avec le Saint-Esprit. Et puis ensuite, vient tout ce qu'il va faire. Il va appliquer son programme. Il prêche avec autorité dans la synagogue. Et il n'a pas peur de la polémique. Il fait face à la colère des pharisiens. Il risque même de se faire jeter d'un précipice. On nous dit qu'il continue à parler avec autorité. Il guérit un démoniaque. Il guérit des malades au coucher du soleil, des malades atteints de diverses maladies. Il les guérit en leur imposant les mains. Chacun, nous dit le verset 40, il chasse des démons, se retire dans le désert pour prier toute la nuit et ensuite fait face à la foule et continue de prêcher. Et tout ça, il le fait comment ? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La méthode de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit dont il est revêtu. Et c'est là que le Saint-Esprit lui indique deux barques. Parce que tout se tient. Tout se tient. Rien n'est laissé au hasard. Et le Saint-Esprit dit, regarde ces barques. Monte dans l'une. Et regarde ce que je vais faire avec toi. Nous n'avons plus Jésus. Il n'est plus là. Mais que nous a-t-il laissé? Que nous a-t-il donné? Son Saint-Esprit. Il dit dans Jean, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais je m'en vais, vous préparez une place, et vous recevrez le Saint-Esprit tombant sur vous, et vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins. Et ce Saint-Esprit, tant que Jésus était sur terre, il concentrait le Saint-Esprit en lui. C'était formidable, mais Jésus voyait plus loin. Jésus voyait nous, il voyait ses disciples, il voyait nous. Et il nous a laissé son Saint-Esprit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce Saint-Esprit qui habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du privilège qui est le nôtre par rapport aux Juifs qui devaient faire tout un processus pour s'approcher de Dieu? Mais là, le Saint-Esprit est en nous. Alors, laissons le Saint-Esprit monter dans notre barque. Dans notre barque individuelle, laissons-le entrer. Nous disons charismatique, mais de quand date ta dernière conversation avec le Saint-Esprit? De quand date ta dernière communion avec le Saint-Esprit? À quand remonte ton dernier tête-à-tête avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es chrétien de nom, chrétien charismatique de nom, pour faire bien? On parlait dans le temps des chrétiens historiques ou sociologiques. Il ne faudrait pas que les chrétiens charismatiques deviennent des chrétiens sociologiques, mais des chrétiens pratiquants, qui vivent la relation vivante avec le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit entrer dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit entrer dans notre barque. Laissons le Saint-Esprit entrer dans la barque de l'Église aussi. Laissons-lui la place. Si nous ne le faisons pas, nous allons nous épuiser. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit Pierre. On est fatigué. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Je vois des chrétiens qui sont fatigués, qui sont au bout du rouleau. Et la raison, elle est simple. C'est qu'il y a trop d'eux-mêmes et pas assez du Saint-Esprit en eux. Laissez le Saint-Esprit prendre sa place. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le folklore, ce n'est pas seulement la louange, ce n'est pas seulement être bien, c'est une communion. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai. Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit individuellement et en Église? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit Pierre. On est fatigué. Et combien d'entre vous sont fatigués? Fatigués de ne rien prendre. Fatigué, car sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Sans le Saint-Esprit vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire, tout Jésus qu'il était. Et s'il a pu résister à la tentation, c'est à cause de qui? Du Saint-Esprit. Et s'il a pu faire tous ces miracles, c'est à cause de qui? C'est du Saint-Esprit. Et à tous ceux qui sont fatigués, je vous ai une parole pour vous que le Saint-Esprit m'a glissé à l'oreille C'est dans Ésaïe 40, verset 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Cela est possible grâce au Saint-Esprit en vous, grâce au Saint-Esprit en nous. Alors la méthode, ben c'est ça, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Recherchons à nouveau ce contact du Saint-Esprit. Et il y a un livre que je vous conseille de lire ou de relire, c'est celui-ci, « Bonjour Saint-Esprit » de Benny Hinn. C'est un livre merveilleux. C'est le fruit d'une relation vivante avec le Saint-Esprit, entre un homme et le Saint-Esprit. J'espère qu'il continue à cultiver cette relation. Il a développé une compréhension du Saint-Esprit absolument prodigieuse. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi extraordinaire. C'est quelqu'un qui a nourri cette proximité avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui est vulnérable. Hein, ne le comparons pas à une colombe qui s'effarouche vite. Et Paul dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Et combien souvent nous attristons le Saint-Esprit de Dieu ? Par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par notre dureté de cœur. Combien souvent le Saint-Esprit nous quitte ou se fait discret, s'en va, et nous l'attristons. Et Paul dit que nous pouvons même éteindre le Saint-Esprit. Alors, je vous en conjure, bien-aimés, cessons d'attrister le Saint-Esprit, mais accueillons-le, aimons-le, glorifions-le, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Deuxièmement, une démonstration de puissance. Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, dit à Pierre, avance en eau profonde. Oh, que j'aime cela. Avance en eau profonde. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, Jésus, dans ce cas-là, il exprime cette démonstration de puissance en opérant ce miracle de la pêche miraculeuse. Mais pour cela, il a besoin de quelqu'un qui obéit, avance en eau profonde. Le miracle, c'est Dieu qui fait 99% de quelque chose d'extraordinaire et nous qui faisons 1%. Et ce 1%, c'est notre obéissance. Et le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, le Seigneur vous dit, avance en eau profonde. Moi, j'aime beaucoup ce texte d'Ézéchiel 47, où vous voyez, de l'autel du temple coule un fleuve. Et puis le prophète, il est là au bord de ce fleuve et il entre timidement, il met un pied et il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il avance un peu plus loin. Que Dieu te bénisse, Elisabeth. Il tire la louange des enfants à la mamelle. Il avance un peu plus et il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et il est invité par Dieu à avancer plus loin. Et il a de l'eau jusqu'à la taille. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche prise. Et il est emporté par le torrent. Par le torrent. Ben c'est ça l'image du Saint-Esprit. C'est de nous laisser emporter dans ce torrent de vie. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et nous, nous sommes satisfaits de nos petites flaques. Nos petites flaques. Mais le Seigneur veut quoi ? Il veut qu'on plonge dans cette rivière. Et c'est quoi ce plongeon ? Mais c'est cette communion avec lui. C'est le désir de Dieu que nous soyons en communion avec lui. Pas seulement au culte, pas seulement une fois de temps en temps, pas seulement lors de grands événements, mais tout le temps. Tout le temps, c'est le désir de Dieu que nous soyons en communion avec lui. Ne l'a-t-on pas chanté tout à l'heure ? Entrer dans cette présence de Dieu, se plonger dans les bras de Dieu. On a dit de très belles paroles, mais est-ce qu'on a saisi la profondeur de ces paroles ? Donc avance en eau profonde. Et tout au long du ministère de Jésus, nous assistons à cette démonstration d'esprit et de puissance. Il parle avec autorité par le Saint-Esprit. Il a des paroles d'autorité qui guérissent les malades par le Saint-Esprit. Par cette parole qui chasse les démons par le Saint-Esprit. Il gagne les cœurs par le Saint-Esprit. Idem pour l'Église, idem pour les disciples. Vous lisez le livre des Actes. On a dit le livre des Actes des apôtres. On devrait dire le livre des Actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est à toutes les lignes. Et s'il n'est pas à toutes les lignes, il est entre les lignes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de A à Z. De A à Z. Je pourrais vous le démontrer. C'est sous l'influence du Saint-Esprit que s'opère cette pêche miraculeuse. Sur ta parole. Voilà une phrase qu'il faut retenir. Sur ta parole, je jetterai les filets. Est-ce qu'on attend la parole de Dieu ? Est-ce qu'on l'attend ? Est-ce qu'on est suffisamment patient pour l'attendre et l'écouter ? Le frère Sylvain Gauthier, moi j'aime beaucoup ce frère et tout ce qu'il nous apporte me remplit d'émerveillement. Mais en même temps, ça crée une grande frustration en moi-même parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on vit de tout ça ? Qu'est-ce qu'on vit de tout ça ? Ça reste, me semble-t-il, un peu théorique. Mais moi, j'aimerais vivre ce contact avec le Saint-Esprit, cette écoute. J'écouterai ce que dit Dieu. Et c'est une écoute active. C'est une écoute active. Parle. Seigneur, ton serviteur écoute. Depuis quand on n'a pas dit ça au Seigneur ? Parle. Ton serviteur écoute. Et il parle de plein de façons au Seigneur. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit Job, et on n'y prend point garde. Il peut parler par sa parole, il peut parler par une conviction intérieure, il peut parler par un autre, par quelqu'un, il peut parler même par un animal, c'est arrivé. Il était tellement bête Balaam qu'il lui a fallu un âne pour dire « arrête-toi ». Le Seigneur peut parler de maintes façons, il peut parler par des rêves, il peut parler par des prophéties. Il parle. Mais nous, on n'écoute pas. Comment ça se fait ? C'est dramatique. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est dramatique. J'ai envie de pleurer. C'est dramatique. On est en train de devenir des chrétiens religieux, des chrétiens sociologiques. C'est une catastrophe. Mais réveillons-nous. Cessons d'attrister le Saint-Esprit par notre incrédulité, par la dureté de notre cœur, par notre suffisance. Hier, j'étais au parcours Alpha et je parlais sur le Saint-Esprit. Il y avait un homme qui s'appelait Daniel, comme moi. Puis je dis, mais pourquoi tu veux que je prie pour toi ? Je suis orgueilleux, qui me dit. J'y arrive pas. Il dit, tu veux qu'on se mette à genoux tous les deux ? On s'est mis à genoux tous les deux, on a prié. Et il a demandé pardon pour son orgueil. Vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Pardon, Elisabeth. Pardon. Mais il fait grâce aux humbles. C'est ça le secret. Il fait grâce aux humbles. Sur ta parole, je tirerai les filets. Et si la parole du Saint-Esprit pour aujourd'hui, pour ce temps, c'est turning, ben allons-y. Si c'est la méthode ou une méthode du Saint-Esprit, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend ? Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Que des gens, six personnes, en l'espace d'une heure, qui se donnent à Jésus. Moi-même, je l'ai vécu. Jamais vu ça. Bien sûr, après, il y a tout le travail de suite. Mais il y a une indication du Saint-Esprit ici. Tire tes filets dans cette direction. Troisièmement, l'opération de recrutement des trois disciples, et pas n'importe lesquels quand même, vous remarquerez. Pierre, Jean et Jacques, les futurs piliers d'Église, les voilà. Comment ont-ils été recrutés? Eh bien, ça se fait par une démonstration de puissance. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Et là, qu'est-ce qui se passe chez Pierre? Il prend conscience qu'il est pécheur. Il prend conscience de son indignité. « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour la fanfaronnade. Quand on est dans la présence de Dieu, on prend conscience de son indignité. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit recrute qui? Ben que des gens indignes. Parlez de Moïse, Moïse le bègue. Jacob, l'usurpateur. Que des gens improbables. Jérémie, le timide, le peureux, qui ne sait pas parler. Et Dieu lui dit, mais qui a donné la bouche? Parle, je la remplirai. Saul de Tarse, le pharisien ultra-violent. Pierre, je vais faire un jeu de mots, le pécheur, pécheur. Le pécheur, pécheur. Que des gens improbables. Le Saint-Esprit choisit que des gens improbables. Servir Dieu passe d'abord par une rencontre déterminante avec le Saint-Esprit. Je répète ça. Servir Dieu passe d'abord par une rencontre déterminante avec le Saint-Esprit. Et que fait le Saint-Esprit ici? Il enlève la peur. N'aie pas peur, dit Jésus. N'aie pas peur. Et le Saint-Esprit met dans le cœur de Pierre cette ferme assurance. On l'a chanté tout à l'heure, l'assurance. Cette ferme assurance. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Et voilà Pierre qui est lancé vers son futur. On parlait de futur tout à l'heure. Le futur de Pierre a commencé là, dans cette rencontre avec le Christ, quand le Saint-Esprit est tombé sur lui, quand il a pris conscience de son indignité et qu'il a reçu cette parole, « N'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'homme. » Alors, je vais finir de parler et on va, si vous le souhaitez, nous mettre devant le Saint-Esprit. Et je vais vous inviter à fermer vos yeux si vous le souhaitez. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit qui est en nous, qui est parmi nous. Et je vais vous inviter à lui demander pardon pour toutes les fois où vous l'avez attristé. Et si le Saint-Esprit vous montre des choses qui l'ont attristé, eh bien, repentez-vous, demandez-lui pardon, parce qu'il ne reviendra pas tant que vous n'aurez pas demandé pardon pour toutes ces choses qui l'ont attristé. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la peur, ça peut être le jugement, ça peut être la colère, ça peut être l'indifférence, ça peut être la suffisance, ça peut être beaucoup de choses. Souvenons-nous, le Saint-Esprit ne force personne. Il veut se sentir accueilli et il ne cohabite pas avec le péché. Et la meilleure façon de le faire revenir, c'est de lui demander de nous révéler ce qui l'empêche de venir dans nos cœurs. Alors je vais prier. Si c'est votre prière, faites-la pour vous-même et ensuite nous inviterons le Saint-Esprit à venir. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où dans ma vie, je t'ai laissé de côté, ou toutes les fois dans ma vie où j'ai ignoré ta présence, où je me suis dit, je peux me débrouiller tout seul. Pardon. Pardon pour ma médiocrité. Pardon pour mon orgueil. Pardon pour ma suffisance. Pardon pour mon incrédulité. Ô Saint-Esprit, vous ajoutez les choses qui vous concernent. Sincèrement, On n'est pas... Laissons nos faux semblants, laissons nos faux... On l'a changé tout à l'heure. Laissons nos faux semblants. Arrêtons de faire semblant, bas les masques. Et demandons au Saint-Esprit de nous laver, de nous purifier, de nous conduire dans toute la vérité, c'est ce qu'il fait. De nous consoler aussi. Faisons-le. Ayons ce temps de repentance devant lui. Ça nous prépare aussi à la Sainte Cène. Et maintenant, invitez-le. Il se tient à la porte et il frappe. Invite-le à entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans toutes les pièces de ta maison. Peut-être qu'il est quelque part en toi, mais pas partout. Et il aimerait être partout. Mais c'est à toi de lui ouvrir les portes de ta maison. Alors fais-le dans la simplicité. Il ne faut pas être compliqué. Fais-le dans la simplicité. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'accueille. Je t'accueille à nouveau dans ma vie. Rentre, s'il te plaît. Occupe la place, toute la place. J'ai besoin de toi. Et remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que l'équipe de louange peut venir? Car il est bon pour qui l'écoute. Étant tous ceux qui vont à lui quand vient le doute.
Si.
Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel.
Approchons-nous de la table.
Que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.